La nuit était tombée depuis longtemps quand la vedette de la SNSM ramena Bedel, le légiste de Cherbourg, et Ludovic Ménard, chef de la police scientifique de Caen. Entre-temps, les gendarmes, aidés par les archéologues, avaient monté des projecteurs prêtés par le musée maritime et stockés habituellement dans le fort pour les célèbres traversées Tatiou, festival de musique ayant lieu au mois d'août. La lumière jouait avec les ombres des remparts, rendant le tableau fantasmagorique. Plus loin, la tour Vauban tenait son rôle de sentinelle, veillant depuis 1694 sur la rade de la Hougue. Elle fut construite à la demande de Louis XIV par Benjamin de Combes, ingénieur de Vauban, après la tragique bataille de la Hougue qui eut lieu en 1692 et lors de laquelle les vaisseaux du vice-amiral de Tourville furent brûlés par la flotte anglo-hollandaise. Depuis, elle avait pour mission la défense de la côte avec sa sœur jumelle, la tour de la Hougue à Saint-Vast. Plus loin encore, le fort de Lillet, maintenant réserve ornithologique, témoigne depuis plus longtemps encore de la nécessité de défendre la baie. Ludo alla chercher le légiste et le scientifique à la descente de la vedette. Le pilote signala par radio l'arrivée des deux hommes au commandant Colas, qui s'avança sur le chemin pour les accueillir. Il les guida vers les lieux de la découverte, presque à la pointe du sentier des fortifications. Les présentations furent faites, et les nouveaux venus, une fois équipés de façon stérile, se penchèrent sur le corps, dont les os blancs semblaient absorber la lumière des projecteurs. À leur tenue blanche et la lumière des projos, on dirait deux extraterrestres du troisième type sortis de leur vaisseau, songea Mick, féru de science-fiction. Bedel grimaça. « Ce n'est pas un corps pour un légiste, ça » maugréa-t-il, vaguement contrarié de s'être déplacé pour rien. « C'est un anthropologue médico-légal qu'il vous faut, et ça ne court pas les rues. »« Tu peux peut-être quand même nous donner quelques indications ?» suggéra Ménard. « Garçon, fille, âge ?» Bedel s'agenouilla au bord de la tombe et examina longuement le squelette. Si longuement que Colas s'impatienta. « Pouvez-vous nous dire au moins depuis combien de temps il est là ? Enfin, il ou elle ?» Bedel se décida. Seule la fluorescence des os placées sous des rayons UV permettrait de situer la mort. Je parlerai en dizaines d'années. La conformation du squelette évoque un garçon, un adolescent de moins de 20 ans. L'étude des dents nous donnera plus d'indications. Peut-être Ludovic pourra être plus précis avec des analyses. Regardez, il reste ce bout de tissu et puis là, sous le poignet, on dirait...
Il se munit d'une pince et tritura le sol.
Une gourmette ! Déjà, Ménard tendait une pochette à indices. La gourmette était noire et piquée de taches. Sur la plaque, on devinait des inscriptions actuellement illisibles. « Je devrais pouvoir récupérer cela », affirma Ménard. « Ce genre de gourmette était très à la mode dans les années 1970-1980. On en saura plus dès que je l'aurai nettoyé. Regardez, il y a ce morceau de foulard, mais aussi des débris de tissu autour du corps. Il a été enterré habillé. Par contre, je vois pas de chaussures. S'il les avait portées, on pourrait sans doute encore en voir des débris. » Le cuir est plus solide que le tissu. Pour ce soir, je vous conseille de couvrir le corps et de le faire garder, proposa Bedel. Pas question que des animaux nocturnes viennent piquer des os. Je vais rentrer à Cherbourg et faire venir l'anthropologue. Demain, on le sortira. Mais je préfère que le spécialiste des os soit là, afin qu'il puisse précisément reconstituer le squelette sur la table d'autopsie. Peut-être voudra-t-il aussi faire des prélèvements sur place.
Ménard approuva.
Je suis assez d'accord. Malgré les projos, on y verra mieux en plein jour. À une condition, que la météo soit bonne. Vous pouvez savoir ça, commandant. Sinon, j'y passe la nuit. J'ai pas envie que la pluie emporte les derniers indices qui pourraient subsister dans ce trou.
Colas consulta Météo Ciel et la météo marine, la plus fiable.
C'est bon, assura-t-il. Pas de pluie cette nuit. Par contre, ça va cailler. 3 degrés seulement. « Ça ne le dérangera pas !»
fit Bedel, cynique. Le groupe au complet se retrouva au restaurant de l'hôtel.
sauf le jeune gendarme qui resta de garde auprès du corps. Il serait relevé toutes les 2 heures par un autre gendarme qui arriverait de Saint-Vaast, tandis que Gaétan, le jeune serveur, les installait dans une salle immense capable d'accueillir des groupes entiers. Bedel passa quelques coups de fil pour trouver l'anthropologue judiciaire. Il n'y en avait qu'une pour la région Normandie. Elle avait régulièrement des missions longues quand des restes humains étaient découverts sur des sites de bataille tristement célèbres, comme les plages du débarquement et les régions limitrophes. Il finit par apprendre qu'elle travaillait dans la région d'Issigny-sur-Mer, où un jeune couple venait d'acheter un terrain récemment inscrit au PLU pour construire la maison de leurs rêves. Seulement, les pelleteuses mises en action remontèrent assez vite des ossements. Les travaux arrêtés, un archéologue envoyé sur place décréta qu'il s'agissait là d'un charnier sauvage de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait maintenant récolter les restes, les identifier et les rendre aux familles. C'était un des aspects du travail de Myriam Sorel, 39 ans, anthropologue judiciaire de son état. Quand Bedel l'obtint enfin au téléphone, elle souffla.
Un corps à Tatiou. Et tu ne peux pas t'en sortir tout seul ?
Ce n'est pas mon boulot. C'est récent. Et ici, tout laisse croire qu'il s'agit soit d'une mort accidentelle camouflée, soit d'un homicide. J'ai besoin de données précises.
Bon, ça me fera prendre l'air. Demain 9h, ça ira ?
Parfait. La vedette SNSM t'attendra à la capitainerie du port de Saint-Vaast. J'y serai aussi. On ira ensemble.
Ça me convient. À demain, alors.
Le cuisinier, un homme jeune et qualifié, leur servit un encas. Puis le commandant et le légiste rejoignirent la terre ferme. Gaétan, qui détenait aussi les clés des chambres, en ouvrit une pour Ménard, tandis que les archéologues retournaient dans leur quartier. Tous dormirent du sommeil du juste sans se douter de ce qui les attendait le lendemain. Ménard se réveilla à 6h. Un court instant, il se demanda où il était. Il faisait nuit noire et pas un bruit ne franchissait l'obscurité. La mémoire lui revint tandis qu'un premier cri de mouette transperçait la nuit. Tatiou. Il alluma, se leva et passa sous la douche. Ici, rien de luxueux, mais tout le nécessaire. Habillé, il jeta un œil à son portable. Une barre. Il semblait que le téléphone passait mieux du lazaret que depuis le bout de l'île. Il put consulter ses messages et prévint par SMS son collaborateur, Luc Pasquier, qui resterait sur l'île au moins pour la journée, le priant de traiter avec Ambre Bricard les affaires courantes. Il avait faim et se dirigea vers le restaurant où il trouva porte close. Le petit déjeuner n'était servi qu'à 8h. Personne en vue. Il décida de se rendre sur les lieux de la découverte. Un peu de marche ne lui ferait pas de mal. Il passait trop de temps assis devant son microscope ou ses appareils d'analyse et l'embonpoint, ennemi juré de la quarantaine, le menaçait. Il laissa à sa gauche la maison du gardien, où une faible lueur s'échappait par les fentes des volets clos. Le jour se levait. Le soleil faisait des efforts désespérés pour franchir la ligne d'horizon, mais la nuit s'accrochait, aidée par des nuages bas et cotonneux. Le rouge striant le ciel était du plus bel effet. Ménard fit la grimace.
Rougeur du matin, pluie en chemin, avait coutume de dire sa grand-mère, détentrice de ce genre de proverbe paysan qui souvent se révélait exact.
Il longea la plaine où moutons et oiseaux se disputaient l'espace. Les moutons dormaient encore. Les oiseaux, posés à même le sol, s'envolèrent lourdement à son passage, lançant des cris glaçants. Ils étaient furieux d'être ainsi dérangés de si bonne heure et le faisaient savoir. Pour affirmer à l'intrus qu'ils étaient chez eux, certains le frôlèrent de si près qu'il sentit le souffle de leurs ailes sur sa nuque. Instinctivement, il enfonça la tête dans ses épaules. Il s'arrêta et contempla le spectacle. Il n'était pas ornithologue, mais arriva cependant à distinguer plusieurs types de goélands, des argentés, des bruns, des marins. Il y avait aussi des sternes plus petites, mais non moins vindicatives. Aigrettes et mouettes complétaient le tableau.